m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie dans Restons Courtois, précisément l'émission de débat donc de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30 en partenariat avec Valeurs Actuelles, Bourgeois Voltaire et donc L'Incorrect, nous-mêmes. Et ce soir, chers auditeurs, bah, c'est la dernière émission de la saison de Restons Courtois de L'Incorrect. Donc pour m'accompagner, bah, les princes de la réaction, Rémi Carlu, rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect, bonjour Rémi.
Bonjour Arthur.
Romaric Sangars, rédacteur en chef des pages culture de L'Incorrect, bonjour Romaric. Il sera question de culture également. Donc au programme, 2 heures pour refermer l'année, puis l'ouvrir sur autre chose. La politique et la littérature, le bilan et l'esprit de résistance. Et nous avons la joie de recevoir Arnaud Beneditti en première heure, politologue, fondateur de la Nouvelle Revue Politique, professeur associé à Paris la Sorbonne. Et je rappelle qu'il avait écrit en 2024 chez Michel Lafon, aux portes du pouvoir, RL, inéluctable victoire. 2 ans plus tard, on va voir où on en est. Puis on fera un bilan sur cette année politique. Et puis surtout septembre qui va s'annoncer le lancement de qui va nous emmener jusqu'au mois de mai, donc l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. À 18h30, nous recevrons Olivier Maillard, écrivain, essayiste, grand spécialiste du 7e art et cofondateur de l'arrière-cuisine des mousquetaires, une revue en ligne culturelle. Donc on va parler, bah, vous aurez deviné, de culture. Et je rappelle que vous pouvez, avant de partir en vacances, ou même si vous êtes en vacances, vous pouvez le procurer chez votre marchand de journaux, bah, le numéro de l'été de L'Incorrect. Bulle et malin, bronzé réac, bref, de quoi passer de bonnes vacances avec, en plus, pour une fois, vous allez pouvoir faire le jeu de l'extrême droite. Et oui, parce qu'un mot croisé, qui s'appelle, donc vous faites le jeu de l'extrême droite, assez sympathique et assez difficile. On a eu quelques retours, ah. Tout le monde n'a pas tout trouvé des mots. Arnaud Beneditti, bonjour.
Bonjour à vous.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Bon, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va faire ce bilan de l'année politique, parce que c'est comme l'école, la politique, ça s'achève au mois de juillet, ça reprend au mois de septembre, et de se projeter sur ce qui va nous arriver, à savoir une élection présidentielle, autant vous dire qu'on a besoin de vacances, parce que ça va être violent et difficile, et bien nous avons une petite tradition dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Taisez-vous !
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Arnaud Beneditti, loi euthanasie oblige. Qui va passer en premier ? Les LR ou le PS ?
C'est plutôt de l'acharnement thérapeutique pour LR et le PS. Mais pour essayer de répondre plus précisément à votre question, il me semble que LR est vraisemblablement aujourd'hui dans une zone de très 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 grande fragilité, peut-être plus que le Parti Socialiste finalement.
On les a achevés. Une bonne picouse et hop. Le discours politique français le plus classe de tous les temps.
Il y en a plein.
Ah, mais
c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a de très grands discours dans la vie politique française, y compris parfois de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Le discours de Robespierre, le 8 Thermidor, est un formidable discours sur le plan rhétorique. Le discours de Gambetta de Grenoble de 1872 sur l'annonce des couches nouvelles dans la vie politique est un très grand discours, avec en plus une profondeur sociologique qui est quand même extrêmement, extrêmement pertinente. Après, il y a les grands discours de la résistance, le discours de Brossolette, le 28 septembre 1942 sur les soutiers de la gloire est un monument, là aussi, je pense, sur le plan oratoire. Plus récemment, vraisemblablement, le discours de Seguin à l'Assemblée nationale en 1992 sur le traité de Maastricht est également un grand discours.
Et celui qui vous a donné envie de rendre votre passeport et de brûler de votre carte d'identité ?
Vous voulez dire parmi les discours ?
Oui.
Fondamentalement aucun. Je suis trop attaché finalement à ma nationalité pour avoir envie de la rendre, quelles que soient parfois les vicissitudes de la vie politique.
Un politique que vous inviteriez à dîner rien que pour l'écouter mentir ?
François Hollande, parce qu'il a quand même beaucoup d'humour, et il analyse assez bien la vie politique.
Une reconversion pour Emmanuel Macron, parce que dans 9 mois, il est au chôme dû. Castreur de maïs, pisciniste ou directeur d'EHPAD? Aucun lien avec Brigitte. Ni pour le castreur, ni pour l'EHPAD.
Oh, vraisemblablement, peut-être qu'il retourne à ses activités initiales, banquier.
Ah, c'est vrai qu'il était banquier.
Oui, Mozart. N'oublions jamais.
Le Mozart. La dernière fois qu'un politique vous a vraiment surpris en bien?
J'avais pas réfléchi à cette question.
C'est dommage.
La dernière fois.
Ça remonte.
Ah, peut-être vous surprendre. François Mitterrand.
Oui, ça remonte.
Mitterrand, à la fin de son parcours politique, a eu des mots très forts. D'abord, ses vœux de 94, qui, je pense, restent parmi les vœux des présidents de la République que l'on retient, sur cette relation, justement, à la spiritualité qui était la sienne, malgré ses engagements politiques dans un camp qui, je veux dire, n'était pas forcément, je veux dire, celui où l'on attendait ce type de discours. Et puis, lorsqu'on l'interrogeait sur la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, où finalement il avait un discours qui n'était pas du tout compris, qui est encore moins compris aujourd'hui, mais qui réintroduisait la complexité dans l'histoire et où finalement il faisait preuve d'une forme de courage par rapport à la bien-pensance.
Robespierre, Mitterrand, Gambetta, c'est un homme de gauche. Le plus grand gâchis s'appelait
Sarkozy. Ces dernières années, oui, 2007, il avait le pays qui était derrière lui en 2007, il avait les moyens véritable pour essayer de mener une politique de rupture qu'il avait annoncée, et in fine on sait comment tout cela s'est terminé.
Et vous savez que ce qui est marrant, c'est dès qu'on a un problème en France et qu'on étudie l'origine, on arrive toujours à Sarkozy. Par exemple, la dernière fois, c'est l'armée. Vous savez, quand on défilait l'armée, on se dit qu'est-ce qu'on va faire et compagnie. Livre blanc de 2008 de l'armée, c'est quand même, et discours de Charbon de Sarkozy en 2008, il explique il n'y aura plus de guerre en Europe, ça sert à rien de faire une armée. Voilà, donc grand visionnaire. À chaque fois qu'il y a un problème, on revient à l'origine, il y a Sarkozy dans les parages. Un scandale politique que tout le monde a oublié et qui, selon vous, aurait dû tout faire tomber.
Il y en a tellement. La vente d'Alstom.
Ça va peut-être revenir, ça.
Oui, mais enfin, c'était un vrai sujet.
Ah oui.
Et finalement, qui est traité, certes, par les quelques rares parlementaires dont le regretté Olivier Marleix, mais qui n'a jamais eu la visibilité médiatique qu'il aurait dû avoir.
Un débat d'entre-deux-tours que vous auriez aimé animer, ou peut-être un débat prochain que vous aimeriez animer.
Non, alors, prochain, j'en sais rien, parce que je ne fais pas de pari sur l'avenir. Mais par contre, dans les grands débats présidentiels, les débats Mitterrand-Giscard, 74 et 81. Et
lequel vous préférez entre les deux?
Celui de 74, parce que il y a une tension qui est liée au résultat de l'élection et où on a quand même là deux superbes tempéraments politiques, quoi qu'on en pense, qui s'affrontent et qui sont des hommes de culture, de lettres et d'histoire, ce qui manque le plus aujourd'hui à notre classe politique.
Et enfin, l'épitaphe du double quinquennat de Macron.
Tout est vanité.
Merci Arnaud Benedetti. Alors, bilan de l'année, commençons par des choses gaies. Le dernier baromètre de confiance politique du CERVIPOF, donc Sciences Po, avec OpinionWay, dit que seulement 22% des Français ont confiance envers leur classe politique.
Alors c'est un phénomène qui vient de loin. Ça fait à peu près 30 ans maintenant que ce baromètre existe, et on constate depuis maintenant 30 ans qu'il y a une baisse de la confiance dans les institutions, dans la classe dirigeante, dans la classe politique, dans les élites. C'est un phénomène continu, mais qui, à mon sens, s'est amplifié ces 10 dernières années, parce que tout simplement, l'élection de Macron était une élection rendue possible que par justement cette perte de confiance dans la classe politique et dans l'action de l'État et dans l'action des dirigeants politiques. Emmanuel Macron arrive à se faufiler dans un trou de souris, mais il est plus un syndrome qu'une cause, mais ça s'est évidemment considérablement amplifié et accéléré ces 10 dernières années. C'est pas une surprise. Je pense que la grande rupture dans notre vie politique, c'est 1992, c'est le traité de Maastricht. On en parle insuffisamment. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, et quand on regarde de près la cartographie électorale finalement de 1992 continue à produire ses effets aujourd'hui en 2006. Regardez par exemple la France du non, la France des gilets jaunes, la France qui vote pour le Rassemblement national, c'est la France qui avait voté non en 1992 à Maastricht, et la France du oui, c'est la France déjà des grandes métropoles qui aujourd'hui votent plutôt pour soit les candidats de gauche, soit les candidats macronistes. Mais il y a une perte de confiance qui est liée, j'allais dire, à l'histoire même du rapport des Français à la politique. Le rapport de la société française à la politique, il est totalement constitué par le rapport à l'État. À partir du moment où on considère que l'État est devenu impuissant sur tout un ensemble d'enjeux, qu'il s'agisse des enjeux économiques, qu'il s'agisse des enjeux sociaux, qu'il s'agisse des enjeux de sécurité, qu'il s'agisse des enjeux de contrôle de l'immigration, il est clair que la défiance va être encore plus forte que dans d'autres pays européens. D'ailleurs, ce qui est intéressant, il faut le signaler, l'étude du Cevipof aujourd'hui, c'est une étude qui porte sur la confiance dans différents pays, pas seulement en France, mais également au Royaume-Uni, en Allemagne, ou en Italie, et c'est en France que, si vous voulez, le malaise politique est le plus profond. Et ça s'explique, parce que tout simplement, nous avons un rapport à la politique qui est extrêmement différent de l'ensemble des autres pays que je viens de citer, parce que ce rapport, il est construit par l'État. C'est l'État, encore une fois, il faut le rappeler, qui fait la nation en France, et ça, ça change tout.
Et qui s'est accentué cette défiance avec, bah, évidemment, 2005, puis...
Alors 2007. Vous avez raison de rappeler 2005. 2005 c'est extrêmement important parce que 2005 c'est l'objectivation de la démonétisation du vote. C'est-à-dire qu'en fait vous avez des gens qui vont massivement voter non pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas le sujet au projet de traité constitutionnel et qui... Et d'ailleurs, un nom qui d'ailleurs, traverse l'ensemble des sensibilités politiques.
Qui est de gauche et de droite.
Gauche et de droite. Il faut rappeler que Laurent Fabius appelle à voter non. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien dans le score, le rejet massif. Une grande partie de la gauche a aussi voté non. Mais le fait que trois années plus tard, on réintroduise 80% des dispositions de ce traité via le traité de Lisbonne va... créer évidemment un trauma qui ne cesse de se prolonger aujourd'hui. Et d'ailleurs, notons que depuis 2005, nous n'avons plus eu un président de la République qui a recouru au référendum parce que le référendum est devenu, si vous voulez, pour l'ensemble des élites dirigeantes du bloc central, pour aller très vite, des forces de gouvernement, comme une menace qui est considérée comme quasi existentielle pour leur maintien au pouvoir. Donc ce refus de 2005, quelque part, a marqué évidemment les tréfonds de la sociologie électorale, mais aussi les élites. Je crois qu'en effet, c'est un des sujets majeurs de ces dernières années.
Et qui c'était en 2005, on s'en rappelle encore. Merci, Sarkozy.
En 2005, c'était Chirac.
Oui, mais 2005-2007.
Alors, 2005-2007...
Le vote, Chirac fait le référendum et Sarkozy se soit dessus.
Voilà, 2008. Alors, il a toujours dit qu'il l'avait annoncé, ce qui est vrai d'ailleurs.
Oui, mais il a tellement annoncé de choses.
Il l'avait dit dans son programme, mais évidemment, ce n'était pas le point le plus saillant de son programme que les Français avaient retenu. Les Français n'ont pas voté, en effet, pour ça.
Et est-ce que depuis justement 2007, est-ce qu'on peut expliquer l'abstention avec 2007? Est-ce que 2007, c'est la défiance du vote et donc les gens disent « je ne vais plus voter »
Non, alors oui, ça renforce l'abstention, c'est pas la seule explication. Si vous voulez, on a une tendance, là aussi, qui est même antérieure, si vous voulez, au vote de 2005, où on a un recul de la participation électorale depuis à peu près une trentaine d'années. Alors avec, évidemment, des moments où ça remonte un peu, mais globalement, on voit qu'il y a un retrait de la participation. Le retrait de la participation, il s'explique par le fait, en effet, qu'on considère que le vote ne sert plus à rien, que de toute façon, ceux qui vous promettent la rupture ne la pratiquent pas une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'il s'agisse d'ailleurs des candidats de gauche ou des candidats de droite, parce que François Hollande aussi avait promis la rupture à son électorat. Rappelez-vous, son ennemi, c'était la finance. Toute une partie de la gauche a considéré qu'elle avait été trahie. L'épisode des frondeurs, j'en passe. La progression, d'ailleurs, du mélenchonisme à partir de ces années-là sur le plan électoral. Mélenchon fait une percée déjà aux élections présidentielles de 2012. Et également finalement, ce qui est vrai aussi pour la droite. Et puis, il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, et ça c'est encore plus vrai dans notre société politique en France, que les grandes décisions se prennent ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir n'est plus à Paris, que le pouvoir n'est plus dans l'État, que le pouvoir, il est pris dans des instances internationales, les instances européennes, le FMI, l'OMC, qu'il est aux mains des GAFAM, éventuellement. Donc cette idée que ce qui faisait la singularité de l'État comme outil politique n'est plus efficace, n'a plus d'efficience, il n'est même plus visible. Mmh. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait plus où est le pouvoir aujourd'hui. C'est très important d'ailleurs pour la confiance. Vous pouvez avoir la confiance dans un pouvoir à partir du moment où vous le voyez. Aujourd'hui, l'idée, c'est que le pouvoir est devenu invisible d'une certaine manière ou polyarchique. Et ça, c'est ce qui explique aussi la défiance et le fait qu'on voit un recul de la participation. Recul de la participation qui n'est pas le propre des élections nationales, qui est aussi le propre des élections municipales. Il faut noter, je crois que j'étais venu avant les élections municipales ici, ou après, je ne sais plus.
Le lendemain, ce qu'il faut noter, entre
les deux tours. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un recul aux dernières élections municipales de la participation électorale. Alors, pour des raisons qui sont liées aussi, dans les petites communes, au fait qu'on a changé la façon de voter, puisque dans les communes aujourd'hui de moins de 2000 habitants, on ne peut plus panacher ce qu'on faisait par le passé, et donc on n'a plus que des listes qui sont, avec la parité en plus, on a souvent, dans beaucoup de communes, plus qu'une liste, mais enfin, globalement, aujourd'hui, le local est aussi touché par ce recul de la participation électorale. Ce qui est inquiétant, au demeurant.
Rémi Carlu.
Oui, je voulais revenir juste sur cette idée que le pouvoir se serait effectivement évaporé de l'appareil d'État français vers d'autres structures. C'est effectivement un sentiment diffus, très largement partagé dans la population française. Mais à quel point est-ce vrai? Et à quel point, effectivement, dans le cas de cette présidentielle, un président qui prendrait le pouvoir serait en capacité de... reprendre peut-être ce pouvoir qui a disparu, ou est-ce uniquement symbolique? Dans quelle mesure, effectivement, voilà, un prochain président français peut-il réformer le pays, ou est-ce fichu? Si le pouvoir est parti, c'est terminé.
C'est assez vrai, parce que, regardez, par exemple, nous ne sommes plus maîtres de notre politique commerciale. On le voit, la politique commerciale aujourd'hui est une prérogative de l'Union européenne. La France a beau s'opposer à la signature du traité du Mercosur, malgré la mobilisation des agriculteurs, ben on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Regardez, par exemple, tout ce qui touche à la politique migratoire. La politique migratoire est aujourd'hui extrêmement contrainte, alors pas seulement par des jurisprudences européennes, également par des jurisprudences nationales qui intègrent les jurisprudences européennes, mais ce sont des outils qui, de fait, entravent l'action des élus à partir du moment où ils sont portés au pouvoir. Alors après, en effet, il y a des moyens de récupérer le pouvoir. Je pense notamment sur les questions régaliennes. C'est certainement peut-être plus facile que sur les questions économiques où là, en effet, on a véritablement des interdépendances qui font que c'est beaucoup plus complexe. Mais sur le plan régalien, il est clair qu'à partir du moment si on décide demain d'inverser la hiérarchie des normes et de considérer qu'il faut mettre en place un bouclier constitutionnel qui fasse que la norme nationale prime sur la norme européenne, ben là, vous pouvez en effet reprendre le contrôle de votre politique migratoire. Et ça sera vraisemblablement le seul moyen de reprendre le contrôle de notre politique migratoire que de parvenir à cette inversion de la hiérarchie des normes. Faut-il encore qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour le faire? Oui. Ça, c'est absolument capital. C'est ce que prône la droite, pour aller très vite, de LR au Rassemblement national.
Parce qu'on a compris que les juges, en tout cas, par exemple, le Conseil constitutionnel, s'opposeraient et sont en train d'essayer de cadenasser, on le voit par différentes prises de parole de Laurent Fabius, par exemple. À quoi pourrait ressembler ce rapport de force du politique pour reprendre du pouvoir, notamment à ce gouvernement des juges? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un combat homérique, pour rester dans l'actualité, qui se profile sur cette question.
Mais il n'y a pas de gouvernement des juges. En fait, cette idée d'un gouvernement des juges, elle est aussi, j'allais dire, fictive que la question de l'état de droit en tant que tel. Il y a une formule du doyen Vedel qui est extrêmement intéressante, qui explique de manière métaphorique que finalement, il y a un pouvoir constituant du peuple qui, dans un lit de justice, il reprend la formule et la métaphore du lit de justice, peut défaire ce que les juges ont fait. Cette possibilité, elle existe toujours. Après, en effet, ça sera l'objet d'un rapport de force politique. Parce que vous voyez bien que l'état de droit est aujourd'hui excipé comme un totem par un certain nombre de forces politiques pour ne rien bouger.
Or, l'état de droit, il n'est qu'un état du droit à un moment donné. Personne ne remet en cause la nécessité qu'il y ait un état de droit. Ça, c'est une chose. Mais après, c'est le contenu de cet état de droit. Et si vous voulez, à partir du moment où l'état de droit est excipé comme un moyen pour empêcher, par exemple, la société de se protéger face à de nouvelles menaces, quand vous êtes confronté à de nouvelles menaces, ben, ou à de nouveaux défis, vous êtes contraint de faire, de faire bouger votre arsenal législatif sur des tas de sujets. Et aujourd'hui, considérer que l'état de droit est quelque chose d'immobile, que l'on ne peut pas faire bouger, constitue finalement un argument politique, bien plus qu'un argument, j'allais dire, juridique. Mais c'est cet argument politique, en effet, et qu'il va falloir que, s'il y a un gouvernement ou un président nouveau qui veut, par exemple, s'attaquer au problème de l'immigration, ben, il va falloir qu'il impose ce rapport de force, notamment aux opposants, qui sont les opposants de gauche, principalement sur un certain nombre de sujets.
Et au Conseil constitutionnel, puisque, a priori, on n'est même pas sûr qu'on ait le droit de poser un référendum sur la question migratoire. Alors, en tout cas, on voit qu'on essaye de cadenasser.
Il y a un sujet là-dessus, parce qu'en effet, quand on lit littéralement l'article 11 de la Constitution, ça se discute, évidemment, parce que le champ, finalement, de référendaire de l'article 11, il est assez limité. Est-ce que la question migratoire, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, la question migratoire ne peut pas faire partie des sujets dans lesquels, à partir desquels un président de la République peut solliciter les Français pour leur poser une question. Ça se discute, parce que les politiques sociales, par exemple, qui peuvent faire l'objet d'un référendum, sont profondément impactées par les politiques migratoires. La difficulté de notre modèle social aujourd'hui, il est quand même lié aussi au fait que nous devons faire face à une immigration soutenue, d'une immigration de masse, qui fait que le modèle social aujourd'hui, il ne peut plus absorber ce qu'il pouvait absorber, en plus dans des périodes de croissance, dans les années 60 ou 70. Donc on a là, si vous voulez, quand même des arguments qui sont réversibles, des arguments juridiques qui sont réversibles juridiquement et politiquement. Mais vraisemblablement, il faudra quand même passer par une réforme constitutionnelle pour aller jusqu'au bout de cette question.
Alors justement, réforme constitutionnelle, comment on fait ? Quelles sont les étapes pour faire une réforme constitutionnelle ?
Parce que tout le monde dit conseil constitutionnel, mais on fait comment ? L'étape, il y en a deux, mais il y a une étape qui peut être... En principe, la réforme de l'article 11, elle doit passer par le Congrès, c'est-à-dire par
une réforme,
par le champ parlementaire. On doit d'abord, en effet, faire en sorte que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes un projet de loi constitutionnel qui élargisse l'article 11 qui concerne le référendum de la Constitution, et ensuite que le Congrès le vote également aux 3/5. Est-ce que la voie du référendum immédiatement est possible ? Ça sera beaucoup plus compliqué parce que, en effet, le Conseil constitutionnel a un certain nombre aujourd'hui d'outils juridiques qui peuvent lui permettre de bloquer cette initiative politique. Alors, d'autant plus qu'on n'est plus, si vous voulez, dans la situation qui était celle de 1962, quand le président de la République, Charles de Gaulle, décide, en quand même contournant un peu l'esprit de la Constitution, pas l'esprit, mais en tout cas la lettre de la Constitution, de faire voter par les Français l'élection du président de la République au suffrage universel direct. D'abord, le rôle du Conseil constitutionnel depuis 1971 a considérablement changé. Je rappelle quand même que la première évolution du Conseil constitutionnel, c'est 71. C'est-à-dire que quand le juge constitutionnel va invalider une disposition législative du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, sur le droit associatif, dans lequel il va intégrer dans le bloc de constitution, de constitutionnalité, la déclaration des droits de l'homme, les préambules de la déclaration de 46, et sur lesquels il va s'appuyer pour casser cette décision. Et en plus, vous rajoutez à partir de là la réforme de 76, où Valéry Giscard d'Estaing ouvre la possibilité à 60 parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel, vous étendez les pouvoirs du Conseil constitutionnel, et bien évidemment, en étendant les pouvoirs du Conseil constitutionnel, vous allez, quelque part, contraindre un peu plus l'action politique.
Alors, en tout cas, moi, sujet. Moi, j'entends plein de choses juridiques, j'y connais rien, il y a des spécialistes, il y a tout ça, mais j'ai toujours l'impression que quand c'est compliqué, c'est que ça arrange toujours l'extrême centre ou la gauche. Bon, il y a une élection présidentielle et le président sera élu avec la majorité. Et puis, il veut faire des réformes, le Conseil constitutionnel va dire non, très bien, bon, c'est six vieux sages, donc sages, ils ont leur âge. Si on s'y oppose, ils ne vont pas faire une guerre, ils ne vont pas sortir avec leur fauteuil roulant pour attaquer le Parlement. Qu'est-ce qui empêche le président de faire un référendum contre le Conseil constitutionnel?
Il y a un aspect qui est un aspect fondamental, ça sera, tout dépendra, j'allais dire, de la force électorale qui portera ce président à la tête de l'État. C'est-à-dire un candidat qui se fait élire très largement peut, dans la foulée de cette élection, décider, par exemple, de procéder à un certain nombre de référendums. D'ailleurs, c'est ce que disent certains. Même M. Philippe dit que s'il est élu, il va procéder à un référendum sur la règle d'or budgétaire. Par exemple, il le dit. Donc, ça dépendra beaucoup du contexte politique. Ça dépendra aussi quand même, il faut le dire et le rappeler, de l'élection législative qui va être une élection quand même assez compliquée après l'élection présidentielle en 2027. Mais par exemple, dans la foulée de l'élection présidentielle et avant l'élection législative, le président de la République peut décider de soumettre à référendum un certain nombre de sujets. Pourra-t-il le faire sur l'immigration tout de suite ? Ça me paraît, à ce stade, difficile.
Et on peut pas faire un référendum contre l'article 11.
Juridiquement, c'est très. Non, on peut faire un référendum contre l'article. L'article 11 est un article qui précise le champ d'application du référendum.
Ouais, pour élargir ce champ d'application, je veux dire.
Alors voilà, c'est ça. La vraie question est là, c'est que les juristes ne sont pas tous d'accord entre eux. D'aucuns considèrent qu'il y a une possibilité, en effet, de pouvoir aller directement au peuple sans être obligatoirement obligé de passer par la voie parlementaire. Sachant que, par exemple, si un président de la République veut aller directement ou plutôt procéder à une réforme constitutionnelle via la voie parlementaire, il ne peut pas le faire, évidemment, juste après avoir été élu, puisqu'il faut,
il faut
dissoudre. Enfin, on peut penser que le président de la République, nouvellement élu, va dissoudre la Chambre élue en 2024 pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer.
Il a plutôt intérêt, oui.
En l'occurrence, donc il ne pourra pas passer par cette voie. Il peut peut-être tenter de passer par la voie du référendum tout de suite. Ça sera compliqué quand même juridiquement, parce qu'encore une fois, le Conseil constitutionnel dispose à ce moment-là d'un certain nombre d'outils, en tout cas sur les questions de l'immigration, qui peuvent en effet rendre impossible ce choix-là. Sauf à aller au rapport de force, mais le rapport de force politique est compliqué.
Alors, depuis 2024, on a la Chambre qu'on connaît, donc impossibilité de gouverner ou pour faire passer des lois sociétales comme la légalisation de l'euthanasie. Qui sort de gagnant de ces deux années politiques à la veille d'une présidentielle ?
Écoutez, si l'on parle aujourd'hui à l'instant T, et après ce que nous venons de vivre depuis une semaine, clairement, il y a au moins deux forces politiques, l'une à gauche, c'est LFI, clairement, qui bénéficie d'une dynamique électorale dans les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'au moins c'est clair, c'est identifié, c'est lisible pour une partie de l'électorat. Et l'autre force, c'est évidemment le Rassemblement National. Depuis une semaine, on voit bien, et toutes les études d'opinion le démontrent, que Marine Le Pen, à l'heure où l'on parle, n'a jamais été dans une situation aussi favorable que celle que l'on connaît. Alors soyons extrêmement prudents, on est encore à 9 mois maintenant du premier tour, le 18 avril prochain, de l'élection présidentielle. L'histoire des élections présidentielles nous enseigne que les vainqueurs des sondages 9 mois avant sont très souvent infirmés ensuite par le résultat des urnes. Il n'en demeure pas moins que, en tout cas ce qui est sûr, c'est que elle bénéficie de deux éléments. Le fait que il y a une sorte d'effet résurrection qui est lié au fait que on n'attendait pas cette sortie judiciaire, ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que elle apparaît aujourd'hui pour une partie de l'électorat, je ne sais pas tout l'électorat, mais pour une partie de l'électorat, comme une candidate qui a gagné en épaisseur d'expérience, qui, par son travail quand même de modération du discours du Front National devenu Rassemblement National, a rendu in fine acceptable pour une grande partie de l'électorat cette offre, et elle bénéficie d'un troisième élément qui est essentiel, c'est que le Rassemblement National est une force politique qui n'a jamais gouverné. Et qui n'a jamais gouverné, et que toutes les forces de gouvernement aujourd'hui, qu'il s'agisse des sociaux-démocrates, qu'il s'agisse des conservateurs ou qu'il s'agisse des centristes, apparaissent comme ayant failli dans leur mission, sur des sujets en plus qui, vis-à-vis de leur électorat, étaient des sujets prioritaires. Je pense notamment à la question de la dette, qui pèse lourdement, puisque la question de la dette invalide l'idée que finalement ces gens-là sont plus compétents que ceux qui s'opposent à eux. Donc, si vous voulez, quand vous avez augmenté de 1000 milliards la dette en 10 ans, il est difficile de considérer que, finalement, vous êtes plus compétent que ceux qui s'opposent à votre politique. Donc, il y a là, quelque part, un mécanisme psychologique sur le plan politique qui fait que ça a basculé. Et un point important, regardez les sondages. Alors, ça reste à confirmer, mais je pense au sondage IFOP qui a été réalisé
le lendemain.
Il faut regarder ce qui se passe chez les retraités. Les retraités, c'est très important. Parce que d'abord, eux, ils votent.
Massivement.
Et ensuite, c'était les plus méfiants vis-à-vis de l'offre du Rassemblement National pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Ben, Marine Le Pen, dans tous les cas de figure, qu'elle soit opposée à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qu'elle soit opposée à Gabriel Attal, mais qu'elle soit opposée également à Édouard Philippe, l'emporterait dans cette catégorie chez les retraités. Alors, ça reste à confirmer, mais il y a quelque chose qui bouge là-dessus.
C'est un signal. Mais on va continuer à parler de tout ça, essayer de... Arnaud Medetti va nous éclairer sur ce qui va se passer dans les prochains mois, mais il est 18h et vous savez, chers amis, que nous sommes l'été. Alors certains sont peut-être sur la plage, ils nous écoutent en maillot de bain, c'est très bien, mettez de la crème solaire. Mais si vous nous écoutez, c'est parce que la radio vit grâce à vos dons. Et puis si vous arrêtez de nous écouter parce que vous allez vous baigner, en rentrant de petites vaguelettes, peut-être que la radio va s'éteindre parce que vous n'aurez plus fait de dons. Donc vous écoutez ce message et on se retrouve tout de suite après.